Salut Charline.
Bon, bah, même si dehors on se pèle les miches, moi je suis chaud bouillante là.
Ah, elle est là.
Hein okay. Bah ouais, je suis là, bah, comme tous les jours enfin, je suis pas venue uniquement pour te voir.
Okay, okay, okay.
Voilà, hop les sujets.
Bah on cherche, mais c'est hoche là aujourd'hui.
Mais quand même, il y a la gifle de Manuel Valls.
Ouais, qu'est-ce qu'il a pris hein.
Bon alors, c'est qui l'invité?
C'est Bertrand Tavernier.
Quoi? Bah quoi, tu kiffes pas Bertrand Tavernier?
J'adore Bertrand Tavernier, mais déjà on aime les mêmes femmes. Michel Morgan, Micheline Bret, ouais, Daniel Darieux.
Voilà. Ah bon, on fait un sujet nécrophilie?
Mais tu comprends rien, on reçoit Tavernier, il faut qu'on refasse toute la conf de rédac, il faut qu'on soit à la hauteur.
Ah,
c'est un passionné du cinéma des années 40.
Ouais,
on recommence tout, tu refais ton entrée, Charline, plus lent, plus de gouaille, pas de hoche, pas de kiff. Dis-toi que t'es Arletty, quoi.
D'accord.
Allez, on met une musique, Joseph Cosma, voilà. Conf de rédac, première action!
Salut la compagnie!
Salut Charline!
Salut la môme, qu'est-ce qui t'amène?
Bah, qu'est-ce qui m'amène? Bah le turbin, papy, hein, c'est pas le plaisir d'avoir ta trogne!
Oh, moi, tu sais, le turbin ou la vie, je fais même plus la différence!
Oh, monsieur est philosophe maintenant, bah la journée va être longue! Hein.
Bah, surtout qu'on a retourné tous les canards, y a pas de sujet!
Bah, si, y a le petit Manu, il s'est pris une torgnole!
Ah, la dérouillée!
T'as voulu faire le malin avec le Grisby de la France?
Bah, puis où est-ce qui arrive?
Hein. Pour emmerder les prolos, parce qu'ils sont beaucoup!
Et parce qu'on les tous un peu!
Et surtout Manu!
Bah, très bien, on va causer de ça dans le poste, tiens, ça va plaire aux gens!
Les gens, ils aiment causer.
Oh, c'est même en ça que tu distingues pas beaucoup d'eux.
Coupé!
Ah!
C'était très bien!
Ah, génial! D'accord.
On va la refaire.
Mais, t'as dit que c'était très bien?
Non, non, on va faire un serré sur Charline, putain.
Bah, il veut serrer Charline.
Mais non, ça veut dire qu'on va mettre la caméra vraiment juste sur elle.
Ah bon, mais pourquoi?
Parce que t'as de beaux yeux, tu sais.
Oh là là, c'est hoche, moi je te kiffe, hein. Salut la France Inter. Bonjour à tous. Ouvrez bien les esgourdes, ça démarre. Vous écoutez l'émission qui met une claque à l'actualité. Et voici les trois informations qui l'auront bien cherché, tiens, jusqu'à 18h. Les ouvriers, toute l'année, ils sont délocalisés, virés, robotisés. Mais à chaque élection, ils deviennent la figure mythique derrière laquelle courent tous les candidats à l'élection présidentielle.
Je peux pas dormir.
Tu n'as qu'à compter tes ouvriers.
Un ouvrier, deux ouvriers... 3 ouvriers, 4 ouvriers, 5 ouvriers.
Manuel Valls s'est pris une gifle de la part d'un passant, c'était hier, lors d'un déplacement dans les Côtes d'Armor. Valls s'est pris une mandale, une taloche, bref, il s'est pris une beigne.
Et ce n'est qu'un coup de semonce.
Le cinéma adapte quelques salles aux enfants avec des séances de 40 minutes, un son pas trop fort et puis on peut bouger un peu, parler, attirer les mioches devant le grand écran. Mais pour quel résultat?
Je t'ai cherché toute la journée. Le lait, tu as pensé à prendre?
Non.
Alors qu'est-ce que tu as fait des sous? Tu as payé le cinéma avec?
Oui.
Oui. Cinéma. Cinéma.
Et moi, je suis accompagnée de celui qui va bientôt réaliser les 400 brèves. C'est Alex Vizorek.
C'est mon rêve. Bonjour, Charline Vanhoulaquer. Et aujourd'hui, autour de la table, un extraordinaire casting. 17h20, celui qui ne croit pas comprendre le monde mieux que les autres. Non, il sait qu'il comprend le monde mieux que les autres. C'est vous, Pablo Mira. Bonjour.
Salut Alex, bonjour à tous. Alors, vous le savez, dans notre pays, les Français nourrissent un sentiment de honte pour deux choses. Leur rapport à l'argent et Jean-Luc Benamias. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur celui le moins gênant des deux, l'argent, évidemment. Et promis, je le ferai sans évoquer Nagui, sa Lamborghini et cette statue de lui en truffe blanche qui se trouve dans l'entrée de son manoir situé au premier étage de la Tour Eiffel. À tout à l'heure, Alex.
17h30, celui qui, quand il est seul, essaye, avec son hémisphère gauche, de poser des questions à son hémisphère droit pour en trouver les contradictions. C'est
vrai,
Guillaume Meurice, bonjour.
Oui, j'ai renseigné. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi, je me suis intéressé aujourd'hui à la vague de froid, comme tout le monde finalement.
Sûr.
J'ai rencontré notamment une dame en manteau de fourrure.
Oh, le ragondin, c'est plutôt nuisible.
Oui, comme les vieilles à manteau de fourrure, pareil.
Et 17h40, celle qui... Tout ce qui lui passe sous la main, ce matin encore, a dû... je recommence.
Ça doit être Juliette Arnault à mon avis.
On reprend l'émission.
Je veux pas spoiler la fin.
Et oui, mais quand je présente Juliette Arnault, je suis un peu bourré moi-même. Bonjour Juliette Arnault.
Bonjour.
De quoi on va parler?
On va parler d'un premier roman.
Très bien.
Et voici celui qui va... Celui qui va rallumer les lumières.
Oui.
Je peux y aller, ça vous ennuie pas?
Lancez la pellicule.
Voilà celui qui va rallumer les lumières pendant une heure. Vous avez réalisé plus d'une trentaine de films, dont Coup de torchon, Le juge et l'assassin, Capitaine Conan, L'appât ou La princesse de Montpensier, ou encore Quai d'Orsay. Vous présidez l'Institut Lumière à Lyon, la Cinémathèque et le musée. Vous êtes, je vous laisse nous le dire.
Bertrand Tavernier.
Oh là là, c'est lui.
C'est lui.
Sur France Inter. Charline Vanhoulaquer, Alex Vizorek, si tu écoutes...
j'annule tout.
Bienvenue Bertrand Tavernier.
Merci.
Vous serez bientôt au festival Premier Plan d'Angers qui présente les premiers films européens. Ça se passe du 20 au 29 janvier. Et vous allez présenter votre documentaire qui s'intitule Voyage à travers le cinéma français qui sortira en salle le 12... Non, qui est sorti en salle déjà.
Il est sorti déjà depuis pas mal de temps.
Bien sûr, c'est pour ça qu'Alex Vizorek l'a vu.
Oui.
Mais là, moi, je trouve ça passionnant parce que vous balayez le cinéma que vous avez aimé. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est quoi être un cinéphile ?
En tous les cas, c'est pas. Je l'ai pas voulu faire un film de cinéphile. Moi, j'ai voulu faire un film de cinéaste qui avait envie de dire merci à des gens qui avaient éclairé ma vie, qui m'avaient donné d'autres choses. Être cinéphile, c'est aimer en principe les films. Mais ça peut aussi, on peut être aussi un cinéphile, comme je n'aime pas beaucoup, qui collectionne, qui est complètement centré sur un genre de film, ou sur des obsessions de je sais pas, de collectionner des génériques, d'apprendre par cœur des génériques. C'était pas mon cas. Mais cinéphile, c'est, oui, en principe, c'est le sens, c'est d'aimer le cinéma. Ou les chiens aussi, non?
Il y a pas, oui, c'est cinéphile.
Oui.
Après, il y a les chiens au cinéma.
Et
pour être un cinéaste, est-ce qu'il faut l'être, cinéphile, justement?
C'est pas obligatoire. Vous savez, est-ce que il faut être pour un cuisinier? Pour être un très grand chef, est-ce qu'il faut quand même savoir déguster la cuisine d'autres personnes? Je pense que oui, ça aide. Je pense que des très grands romanciers étaient aussi des grands lecteurs. Alors, c'est pas une obligation. Il n'y a aucune obligation pour créer.
Est-ce que vous dégustez, vous, en tant qu'enfant, ces Carnets, ces Renoirs, ces Duvier?
Oui, et des films de tous les pays, et je continue. Je reste pas bloqué sur une époque. Simplement, je trouve qu'en ce moment, on a une espèce d'attitude ironique sur la France, sur...
Je ne veux pas que vous parlez.
Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été formidables, notamment dans le cinéma français, des choses dont on devrait être extrêmement fier.
Fabien Antoniente, par exemple, camping.
C'est pas mon époque. Moi, je m'arrête aux années 70.
C'est bien pratique.
Mais non, c'est pas bien pratique. Il y a des films sublimes. Une vie de Stéphane Brisé est un film sublime. Il y a énormément de films formidables qu'on fait. Chaque année en France, et là il y en a beaucoup. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était les films que j'avais découvert quand j'étais môme, quand j'étais jeune.
C'est la grande illusion, votre premier choc.
C'est un des premiers grands chocs, oui. C'était la grande illusion dans un cinéma de la rue du Faubourg Montmartre. Et après, il y en a eu des masses, et je continue à en avoir beaucoup. Je continue à avoir des chocs. Très très souvent quand je vais au cinéma.
Bertrand Tavernier, vous serez donc au festival Premier Plan d'Angers, c'est les premiers films européens.
Oui, je vais un peu détonner moi là-dedans.
Ah, oui, mais alors, justement, vous proposez Voyage à travers le cinéma français. Si vous deviez proposer un voyage à travers votre cinéma européen, vous commenceriez par où? Ce serait quoi l'évidence?
C'est impossible. Il me faudrait à peu près le même temps que pour le cinéma français. Il me faudrait plus de 3 heures et des poussières.
Le cinéma européen en général,
le cinéma anglais, à l'Institut Lumière, on a sorti les films de Michael Powell, par exemple, qui sont des chefs-d'œuvre. Il y a énormément de gens que je connaissais très bien dans le cinéma italien, de Comencini à Risi, il y avait des La Tuada, tous ces. Je crois qu'un des premières interviews que j'ai fait dans ma vie, c'est de La Tuada, d'un cinéaste italien. Donc, non, le cinéma européen, c'est énorme. Le cinéma espagnol, ça. Là-dessus, je pourrais, si je voulais continuer dans cette niche, je pourrais le faire assez facilement.
Et comme quoi, il faut garder les Anglais en Europe.
Oui. Mais les Anglais ont toujours été... Le cinéma anglais a presque tout le temps... À peu d'exceptions près, ils ont été mieux que les hommes politiques anglais, à part Churchill, comme dirait l'autre.
C'est donc le festival Premier Plan d'Angers qui présentera les premiers films européens du 20 au 29 janvier, présidé par Lambert Wilson pour le jury. Et puis vous y présenterez Voyage à travers le cinéma français, qui est déjà sorti en salle. Et vous le présenterez le 23 janvier à Angers. Vous êtes sur France Inter, nous sommes en compagnie de Bertrand Tavernier.
Shine your gun.
shine your gun. Shine your gun right now. Shine your gun, shine your gun. It's time for the showdown. I never want to hold the gun without the gloves upon my hands. Don't wanna leave the fingerprints on the murder weapon. One of them come, I'm gonna kill them dead. Two of them come, I'm gonna run them red. Without a trace, I'll send them to their beds. Another one dead. Shine your gun, shine your gun. Shine your gun, room boy. Shine your gun, shine your gun. Shine your gun right now. Watch, I got my Glock on my waist. Watch, I got my Glock on my waist. You want to get acquainted to Betsy? Oh, you want to meet my Glock, Charlie? Yeah. Shine your gun, shine your gun. Shine your gun right now. Shine your gun, shine your gun. It's time for the showdown. You got the Glock, you got the war. You can't mock, you can smile.
Murder Weapon, Tricky and Frank Riley sur France Inter.
Ça s'arrête net ce truc-là.
Ouais, ouais. C'est comme ça. Ouais, voilà, ils savent mettre un point final aux choses. Bertrand Tavernier est avec nous sur France Inter. Et pour l'accompagner, Alex.
Eh bien, Guillaume Meurice, Pablo Mira et Juliette Arnaud.
On est là.
Oui, on est là. On va faire un point sur l'information d'abord.
Ah,
c'est
oui.
Parti.
Ah, oui, oui. La plus belle arme, c'est la sincérité.
Le journal de presque 17h17.
Nous allons installer le printemps dans ce pays.
À commencer par les titres, bien évidemment.
Benoît Hamon tiendra un meeting ce soir à Paris, à l'Institut du Judo.
Oui, il prend ses précautions, parce que si Valls maîtrisait les arts martiaux, il aurait surveillé sa défense hier soir.
Vague de froid, Ségolène Royal assure qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité.
Oui, on entend faire le maximum pour préserver l'électricitude.
Ah, il y aura des brèves.
Évidemment, des brèvitudes, évidemment,
et Ségolène oui, évidemment. Oh. Le gars a bossé, évidemment. Et on commence par Manuel Valls qui s'est donc pris une gifle hier, quelques mois après Gilles Verdez, le chroniqueur de Cyril Hanouna, qui s'en est pris une de la part de Joe Star.
Exactement, rappelle. Période difficile pour les grands hommes de notre pays.
Rappelons qu'en décembre, un individu avait jeté de la farine sur Manuel Valls.
Et hier, une tarte. Donc Valls, il devrait être candidat au meilleur pâtissier plutôt.
Quelques minutes après cet incident, le candidat a réagi devant les micros. Je cite, il y a toujours des individus qui veulent empêcher la démocratie de s'exprimer.
Oui, et ça s'appelle le 49-3.
Et ce matin, Manuel Valls était sur France Inter. Oui. Il a répondu aux auditeurs de Patrick Cohen et notamment à celui-ci.
Guillaume, depuis Grenoble. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Bonjour Manuel. Salut Manu.
Salut.
C'était pour te dire, Manu, je ne sais pas si tu trouves ça normal ou pas, mais moi je pense que la claque, en fait, on est 66 millions à vouloir te la mettre, quoi. Enfin, c'était juste trop bon, sans déconner, quoi. Il a été parfait, le bonhomme, quoi. C'était juste génial.
Alors,
quoi.
Ça, cet appel à la violence, c'est non.
C'est non, voilà. Guillaume s'est fait couper la parole.
Enfin, Guillaume, ça ne vous suffit pas une chronique par jour chez nous, Maurice. Il faut aussi que vous appeliez la matinale maintenant, Maurice.
Je pensais que j'avais bien caché ma voix. Mais...
Allez, gauche toujours. Benoît Hamon tiendra un meeting ce soir à Paris, à l'Institut du Judo.
Oui, dans la foulée, Teddy Riner a annoncé qu'il livrerait son prochain combat au siège du Parti Socialiste.
Passons à droite. Oui. François Fillon aurait donné sa circonscription électorale à Nathalie Kosciusko-Morizet plutôt qu'à Rachida Dati.
Oui, et d'après le Canard enchaîné, Rachida Dati avait déclaré en off il y a quelques jours.
Si Fillon donne sa circonscription à NKM, ce sera la guerre et faites gaffe, j'ai des munitions, je vais lui pourrir sa campagne.
Oui. C'était quoi le mot-clé de François Fillon?
Le rassemblement.
Ah, c'est bien parti. Rachida promet la guerre.
Notez qu'elle doit s'y connaître en guerre.
Oui, Mais c'est vrai que si on voit les dernières photos de Rachida Dati, il semblerait qu'elle maîtrise des frappes chirurgicales.
Esthétiquement, c'est sûr. Autre information, Fleur Pellerin représentera la francophonie au JO.
Et je peux vous dire qu'elle bosse, elle lit tous les bouquins de Pierre de Coubertin en ce moment. Elle va être prête.
Italie, pour la troisième fois en seulement quelques mois, le centre du pays a été touché par de fortes secousses de magnitude supérieure à 5.
Oui, en Italie, on n'avait plus connu autant de tremblements depuis Jean-Paul Du.
Cinéma, le réalisateur Roman Polanski présidera la 42e cérémonie des Césars.
J'espère qu'il va faire une vanne sur Woody Allen. Ce serait marrant.
Télévision, dans l'affaire des castings, Jean-Marc Morandini bénéficie d'un non-lieu.
Ah, belle journée pour les amateurs de mineurs.
Musique.
Ah, dites-moi que Jean-Luc Lahaye sort un album.
Non, c'est la porte volée de Florent Pagny qui a été retrouvée abandonnée en Eure-et-Loire.
Oui, Florent Pagny prépare une chanson de soutien pour toutes les Porsches abandonnées. Allez, une brève. C'est une de vous pour une fois.
Oui, ce dossier inquiétant. Oui. Des parents tirent la sonnette d'alarme car Sophie la girafe développerait des moisissures à l'intérieur du jouet.
Oui, attention, une vigilance orange moisissure lancée sur tout le territoire.
Je rappelle que nous sommes aussi toujours en état d'urgence. Donc Sophie la girafe sera donc assignée à résidence.
C'est un jouet pour enfants, pour ceux qui ne connaissent pas Sophie la girafe.
Et si la tout le monde connaît Sophie la girafe.
Bah, écoutez, la mienne de brève, la dernière. Une coloscopie sera diffusée en direct à la télé anglaise pendant les pubs.
Dans un souci de sensibilisation.
Bien sûr, mais notons qu'en France, ça existe déjà. Ça s'appelle un reportage de Bernard de la Villardière sur la communauté musulmane.
Premier sujet, parce que nous on passe de Sophie la girafe à Bertrand Tavernier, avec le plus grand plaisir, Bertrand Tavernier. Voilà ce premier sujet, l'ouvrier français flippe pour son travail quand il ne l'a pas encore perdu. Et pourtant, tous les politiques lui courent après, chacun est allé à la rencontre des ouvriers, chacun a été photographié avec un casque ou au milieu des bleus de travail. L'ouvrier, c'est l'électeur à séduire en priorité.
Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Allez, vas-y, Gélo. Attaque. Ça marche. Accroche-toi, Gélo. La nuit est à nous.
Bedos dans la drague. C'est une chronique parue dans Libération hier qui s'intitule « À la recherche de l'ouvrier perdu ». Et c'est vrai qu'on le délocalise, on l'externalise, on le robotise, mais on tuerait pour obtenir son bulletin de vote. Cette recherche frénétique de l'ouvrier comme figure mythique et porte vers le pouvoir d'avoir son vote. Bertrand Tavernier, ça paraît curieux, non ? Ça arrive une fois tous les 5 ans ?
C'est assez triste, oui, que ça arrive tous les 5 ans, mais il y avait un journaliste qui avait écrit il y a des années, déjà des années, peut-être un des meilleurs journalistes politiques français, qui est Éric Conan, avait écrit un livre qui s'appelait « La gauche sans le peuple ». Il disait déjà tout. Je pense qu'il disait tout ce qui est dans cet article était déjà dans le bouquin. Et personne n'a réagi là-bas.
C'est-à-dire ce qui est symptomatique de la gauche socialiste, c'est qu'elle abandonne
les ouvriers. Elle a abandonné
le
peuple pour une politique sociétale, mais elle a abandonné le monde du travail, elle a abandonné le peuple, elle a laissé tomber les gens. Et du coup, il y a eu une OPA du Front National, mais sur énormément de sujets. C'est pas le Parti Socialiste qui a le premier attaqué la défiscalisation prônée par la Commission européenne. Hein. On n'a jamais entendu François Hollande ou les gens attaquer le Juncker. Pour là, c'est le Front National. Le Parti Socialiste a abandonné ça au Front National. Il n'y a personne. Et dans les candidats de la primaire, là, je n'ai jamais, sauf peut-être Arnaud Montebourg, mais je n'ai jamais entendu des gens, justement, parler de tous les problèmes qui étaient causés par toutes ces multinationales qui fleurissent en France et qui ne payent jamais d'impôts sur ce qu'ils gagnent dans les différents pays. Et ce qui est encouragé par le président de la Commission
qui a organisé le système d'évasion fiscale dans son pays.
Qui a été élu avec le soutien de François Hollande, qui n'a jamais exprimé la moindre réserve sur cette action qui fait perdre des milliards aux différents États à chaque fois.
Pour revenir aux ouvriers, vous qui regardez beaucoup de films, et le cinéma c'est quand même le clou de la société, dans les films dont vous parlez dans votre documentaire...
Ils étaient très présents.
Oui, Gabin a joué dans Le Chat, c'est un ouvrier à la retraite.
Oui, mais
dans
ça
la
c'est humaine. Non, mais dans les films de Becker, dans Antoine et Antoinette, est un film sur le monde ouvrier. Mais même certains des films populaires, des films de Verneuil...
Est-ce qu'aujourd'hui encore on en voit beaucoup ?
On en voit, on en voit, notamment dans des documentaires, il y a eu énormément de documentaires qui sont hélas sur des moments pénibles, des grèves dans des dans des usines qu'on essaye de faire tenir au moment où elles vont être délocalisées.
C'est une valorisation de voir que Gabin fait son métier.
Mais ça aussi, à un moment, le monde ouvrier avait été un peu abandonné par le cinéma.
C'est autoréalisateur ou producteur ou...
C'est peut-être par exemple La Nouvelle Vague qui a fait des films absolument formidables et un grand nombre de chefs-d'œuvre. C'est pas un monde qui les intéressait. C'est pas un monde. Ils sont passés à côté de ça, alors que vraiment chez Becker, chez Duvivier, là il y a, je veux dire, Duvivier, même dans les années 50, il tourne dans les Halles, on voit ce que c'était que les Halles, on voit ce que c'était que le travail quotidien dans un monde populaire. C'était des gens qui étaient en prise avec un monde populaire, et ça va petit à petit, ça revient. Il y a des cinéastes qui en parlent, je veux dire Philippe Lioret, Stéphane Brisé, il y a énormément, et beaucoup de documentaristes qui font des films magnifiques, sans parler de Raymond Depardon aussi.
Et si Gabin incarne cette figure mythique de l'ouvrier, rappelons quand même que c'est 20% de la population active et qu'aujourd'hui on a une idée un peu réductrice qui est limitée à l'industrie, à cet ouvrier un peu mythique, mais il y a des ouvriers dans la restauration, l'entretien, les hôpitaux,
bien sûr.
Vaste domaine à couvrir par le cinéma.
Oui, bien sûr.
Nous sommes avec Bertrand Tavernier jusqu'à 18h et c'est l'heure de Pablo Mira, sa chronique. Il est avec nous pour parler des rapports compliqués que les Français entretiennent avec l'argent. Ouais. Je passe donc la parole à celui qui, contrairement à Guillaume Meurice, n'essaye pas de faire passer ses cheveux blancs pour un hommage au Richard Gere des années 80. Voici le merveilleux Pablo Mira.
Merci Charline. Alors aujourd'hui, je vais pousser un cri de désespoir. Allez. L'amour de l'argent est en danger, je le dis. Les Français ont perdu le goût du profit, donc en solidarité avec ceux qui pensent que plus d'argent, eh ben c'est mieux, je tenais à le dire, voilà, je suis argent, je le dis aujourd'hui, je suis argent, et d'ailleurs je donne rendez-vous à ceux qui le veulent ce soir 20h pour une marche qui partira de la place de la Bourse jusqu'au restaurant du Fouquet's, et quand je dis marche, on prendra évidemment des Uber pour marcher. Donc c'est mon coup de gueule du jour. Alors aujourd'hui être riche, c'est mal perçu, comme si l'argent était sale. Et si on suit cette logique, alors ne touchons plus à tout ce qui est sale, les lunettes de toilette, les claviers d'ordinateur, les cheveux de Thomas VDB, ne touchons plus ça. Moi je trouve pas que l'argent soit sale, je le dis, alors peut-être ça va choquer, et d'ailleurs j'ai pas peur de vous dire combien je gagne par mois, évidemment.
Ah, d'accord, oui, alors combien vous gagnez, Pablo?
Et cette peur de parler d'argent ne date pas d'hier, Charline. Ouais. Je vais vous dire, moi en réalité...
Non, Pablo, attendez, combien vous gagnez?
Je vais vous répondre, Charline, et très précisément, puisque vous voulez des chiffres. Ouais. Alors, il fera moins 4 à Montpellier, et la ligne 3 aura environ 10 minutes de retard. D'accord. Voilà des chiffres. Et puis, je vais vous dire une chose, j'ai pas à rougir de ma richesse, parce qu'elle n'est pas due au hasard, mais à trois mots, et je crois que vous savez lesquels, Charline, d'ailleurs.
Travail, la devise de tous les travailleurs, j'imagine.
Non. D'accord. Héritage. Ah oui. La devise de tous les notaires. Donc, d'un côté, l'argent est un sujet tabou, on le voit, et de l'autre, il nous fascine tous. L'argent. Car c'est l'argent qui nous permet de réaliser tous nos rêves, tous nos fantasmes, escort girl, escort mom, escort granny, ça c'est la liste des fantasmes d'Alex Vizorek. Mais ça peut être aussi d'autres fantasmes, comme ceux de Juju, vodka tonique, vodka pêche, vodka. Mais mon fantasme à moi, je vais vous l'avouer, c'est que l'on admire enfin les plus aisés. Malheureusement, j'ai bien peur qu'avec le revenu universel, alors là, c'est cette horreur, le revenu universel, les pauvres, voilà, continuent à penser qu'on devient riche comme ça. En claquant des doigts. Maintenant, faut faire comme moi, faut se lever à 6h tous les matins.
Pablo, attendez, vous commencez votre journée à 17h, pas déconner.
Oui, mais je me lève à 6h pour faire pipi. J'ai une petite vessie, Charlie. Okay. Alors, j'entends déjà les apôtres du revenu universel nous sortir que cette mesure serait utile pour les jeunes qui galèrent à trouver un job. Parce que oui, voilà, le marché du travail, il est dur, on va pas se le cacher. Mais moi, je trouve qu'un jeune qui touche de l'argent sans travailler, ce sera toujours moins bien qu'un jeune qui récolte une précarité qu'il mérite au moins. En réalité, l'idée du revenu universel, elle est symptomatique de la fainéantise des Français aujourd'hui, qui sont de moins en moins bosseurs, on va se le dire. D'ailleurs, c'est plus un poil qu'ils ont dans la main, c'est des dreadlocks. Et moi, j'ai fait le choix de pas être le tonton David du travail. Mais assez parlé de moi, on va plutôt prendre une auditrice comme Marion Deleur qui nous appelle, qui est avec nous. Salut Marion.
Salut Pablo.
Alors Marion, est-ce que tu penses comme moi que les Français ont perdu le goût du travail et de l'argent qui se mérite?
Ah oui, totalement, Pablo.
Eh bien, tu sais quoi, Marion, pour ce témoignage, tu vas repartir avec un chèque de 10 000 euros, un écran plat, ainsi que ton poids en tapenade d'olive noire.
Oh, merci, Pablo, t'es trop cool.
Bah, de rien, tu le mérites, Marion. Alors, non seulement une certaine gauche, Charline, vous voyez, une certaine gauche veut amplifier l'assistanat des pauvres, ouais. Mais en plus, maintenant, on s'en prend frontalement aux riches. Vous voulez quoi? Vous voulez les faire fuir, c'est ça, hein, avec la Rolex entre les jambes? Sans parler du fait qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures dans ce pays. Je veux dire, on peut pas interdire aux riches de devenir super riches alors qu'on autorise les pauvres à devenir super pauvres. Et puis l'indécence de ces pauvres, mon Dieu. Hein, selon un rapport de l'ONG Oxfam, on a donc, oui, 8 multimilliardaires qui possèdent autant de richesses que la moitié la plus pauvre du globe. Et ces pauvres, ils font quoi? Eh bien, ils continuent de se plaindre, alors qu'ils sont multimilliardaires. Pour conclure, je dirais que, une fois de plus, ce vieux fantasme de rééquilibrage des richesses refait surface. Mais pour moi, prendre aux riches pour donner aux pauvres, eh bien, c'est une idée dangereuse, je le dis, car il n'y a pas si longtemps, elle a entraîné l'une des plus grandes catastrophes de l'humanité, Alex. La comédie musicale Robin des Bois avec M. Pokora. Allez, sache.
Merci Pablo Mira, éditorialiste à Vanneurs Actuels.
Je suis argent, Charlie.
Bien sûr, bien sûr. Et l'occasion de rappeler que Bertrand Tavernier présentera le film Antoine et Antoinette de Jacques Becker au festival Premier Plan d'Angers et qu'il sera bon de le revoir, ce film, dans ce contexte. Allez, ce festival, justement, Premier Plan d'Angers, qui présente les premiers films européens et nous-mêmes en musique. On est ouverts aux autres.
C'est quoi?
Vous allez entendre.
Oh oui.
Où vai, où vou nele, no terra avaia oi. Où vai, mou, où vou nele, no terra avaia oi.
Qui chante Ovaï, c'est la playlist France Inter. Ah bah merci voilà. À Djoubaka, ouais. Notre programmateur musical. Nous sommes en compagnie de Bertrand Tavernier qui va voyager ce week-end. Il y a le festival Premier Plan d'Angers, puis vous ferez un petit tour au festival Le Goût des Autres au Havre ce week-end.
Oui, où je présente aussi mon film, mais il y a surtout, il y a un débat avec Céline Mignard qui avait écrit ce formidable roman sur l'Ouest, Failli être flingué, et Russell Banks qui est enfin pour moi, un des plus grands écrivains américains contemporains. C'est un auteur que j'admire énormément.
Et donc vous passerez du Havre à Angers à partir du 20 janvier, donc très très bientôt. Bertrand Tavernier, à vos côtés, il y a Guillaume Meurice qui s'occupe d'un sujet de fond aujourd'hui, vous avez
sujet
de la chance.
Hein. Oui, je vais vous parler médias aujourd'hui parce que ça recrute sec à iTélé. Et ça tombe bien, c'est mon rêve moi d'y bosser à iTélé. C'est vrai, comme Jean-Pierre Elkabbach, mais bon, j'ai pas l'âge d'être sponsorisé par Polydent et Couche Confiance. C'est vrai, je rêve d'y bosser comme Jean-Marc Morandini, mais bon, hein, j'ai pas les déviances sexuelles pour être sponsorisé par Jouet Club et Durex. Donc a priori, j'ai pas le profil pour la chaîne, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je sais faire plein d'autres trucs qui peuvent plaire à iTélé, comme par exemple faire de l'actu avec rien du tout. Et ça tombe bien, puisqu'on est en hiver et qu'il fait froid, génial. Alors j'espère que Vincent Bolloré nous écoute, parce que moi aussi je sais aller dans la rue et faire parler des gens sur le froid en hiver.
Ouais, c'est comme quand il fait, je sais pas, c'est quand on regarde le ciel et qu'il y a, c'est bleu, bleu et froid ça va ensemble, je trouve que c'est le blanc et le bleu ça va très bien. Le froid, oui, c'est bien le froid.
Alors, moi aussi je sais faire ça, moi aussi je peux interroger des gens qui ont rien à dire sur des sujets dont on se fout complètement. Oui, je suis prêt pour iTélé et je peux continuer si vous voulez.
Alors là, après le froid, oui, ça tue les microbes. je crois qu'on peut plus facilement se protéger du froid que du chaud, je dirais.
Ah,
je trouve que c'est bien de temps en temps le froid, ouais. C'est mieux que l'humide.
Voilà. Ah, mais on sent quand même qu'on a affaire à un expert météorologique.
Ah oui.
Alors, moi aussi, je peux trouver des experts de terrain. Je pourrais même l'inviter à un débat sur le thème du froid sur iTélé, pour ou contre le froid. Qui est cette vague de froid venue de l'étranger qui vient voler notre froid bien français à nous, avec Zemmour et Finkielkraut? Ou encore Bernard Cazeneuve, doit-il utiliser un 49 froid? Bah allez, ça c'est pour le Grand Journal. Petite blague, je peux écrire pour le Grand Journal si Bolloré nous écoute, y a pas de problème. Mais bon, ce que je préférerais, c'est iTélé. Alors voilà, je l'ai dit, voilà, je pose ma candidature. D'ailleurs, j'ai continué sur le terrain, hein. Qu'est-ce qu'on en pense, cette dame du froid?
Ah mais que c'est bien.
Vous aimez le froid?
Ah mais oui, beaucoup.
Ah mince, mais non, faut avoir peur là, les médias vous disent qu'il faut avoir peur.
Non, je suis des Nord.
Vous êtes d'où dans le Nord?
D'Espagne.
C'est plutôt le sud,
voilà, moi aussi je peux trouver des experts en géographie, monsieur Bolloré. Ouais, j'ai le profil. Vous avez pris Pascal Praud pour parler politique, donc a priori vous n'êtes pas trop regardant sur la précision. Et moi j'ai un avantage, j'ai un super carnet d'adresses. Ce matin j'ai rencontré une experte en climatologie. Merci monsieur Tavernier qui vient de comprendre la blague.
Non, je rayais, c'est ça, encore d'avant.
Ah oui, regardez le replay, vous allez voir, c'est formidable. J'ai rencontré une experte en climatologie qui m'a parlé réchauffement climatique.
Non, moi je ne crois pas non plus à ce truc-là.
Au réchauffement climatique ?
Oui, j'y crois pas. Vous voyez, cette année on a très froid, l'année dernière on n'avait pas eu froid du tout, bon, bah, et puis l'année d'avant non plus, et puis voilà.
Ah bah alors attendez, ça veut dire qu'il y a un réchauffement climatique ou pas ?
Non. Mais si on n'a que ça comme sujet d'inquiétude, ça va.
Vous pensez que le réchauffement climatique, c'est pas grave ?
Non.
Pourtant tous les scientifiques s'inquiètent.
Oui, ça les occupe.
Et ben voilà, elle est pas bien mon experte. Avec son t-shirt Claude Allègre Forever. Puisqu'on parle d'un ancien du gouvernement, celui actuel, il nous a dit deux choses. Qu'ils allaient s'occuper des SDF. Bon, alors ça, on sait qu'il en meurt plus l'été, mais c'est juste que, bon, esthétiquement, l'image du surgelé Picard devant le Fouquet, c'est pas joli. Mais le gouvernement nous a dit surtout de faire attention à notre consommation d'électricité. Ouais. Voilà, on est censé avoir les meilleurs réacteurs nucléaires au monde, mais faites gaffe en réchauffant vos nouilles. En tout cas, cette dame fait attention.
Oui, je fais attention, je fais mes machines le soir et je fais attention à ne pas laisser une lumière allumée, oui c'est vrai.
Ah, est-ce que ça veut dire que le reste de l'année vous vous en foutez complètement ?
Presque.
Voilà, notre experte en économie d'énergie qui dit à demi-mot que le reste de l'année on s'en tape. Alors là on fait gaffe, hein. N'allumez pas votre chauffage hein, pour permettre aux panneaux de pub, notamment de JC Decaux, de rester allumés toute la nuit. C'est important qu'on voit bien Yannick Noah en slip et que l'action Areva grimpe. Pour avoir chaud, il est préférable plutôt de bien se couvrir, comme cette dame qui porte un joli chapeau.
C'est de la vraie fourrure, c'est du vison, oui.
Vous avez un cadavre d'animal sur la tête, dites donc.
Mais non, c'est horrible de me présenter ça comme ça.
C'est pas la vérité ?
Si, c'est la vérité, mais il y a des limites à ce que l'on peut faire ou ne pas faire.
Ah, c'est quoi la limite alors ?
La limite, c'est de ne pas tuer abusivement des animaux.
Voilà, donc pour faire des chapeaux, ça va, c'est pas abusif. D'ailleurs, si les visons nous écoutent, faites-vous des chapeaux en peau de vieille, hein. Ça crée de la croissance, c'est important. Mais bon, je sais que le sujet de la fourrure est très clivant, hein, c'est sensible. Et comme je ne veux pas fâcher les actionnaires et les annonceurs, hein, monsieur Bolloré, vous nous écoutez toujours, je me contenterai plutôt de parler de cette jolie cagoule.
C'est une cagoule qui imite un éléphant.
C'est vous qui l'avez acheté, on vous l'a offert?
Non, on l'a acheté en Alsace.
Vous avez vu cette cagoule d'éléphant, vous avez dit celle-là, elle est pour moi.
Ah, exactement, parce que j'ai mon épouse qui aime bien les éléphants, donc j'ai dit, elle va m'aimer un petit peu plus. Bon, elle me reproche un petit peu au niveau de la trompe, que c'est un peu petit, mais bon.
Ah, c'est peut-être parce qu'il fait froid, peut-être la trompe c'est se rétracte.
Oui, avec le froid, oui.
Alors, Itélé, j'ai bon ou pas? Je vous ai mis la petite blague graveleuse à la fin, c'est cadeau, je facture pas. Bon, si Itélé me prend pas, je me recyclerai dans un média qui a fait l'ouverture là-dessus, sur le froid en hiver, ils sont nombreux. Voilà, je rends l'antenne, c'était Guillaume Meurice en direct de la tombe du journaliste inconnu. À vous les studios.
Merci Guillaume Meurice sur France Inter avec Bertrand Tavernier qui est avec nous jusqu'à 18h. Et on vous soumet ce nouveau sujet, c'est Manuel Valls qui était en visite hier dans les Côtes d'Armor et à 16h, paf, la gifle. Voilà. Alors voici comment ça s'est passé ensuite, hein, l'explication entre les deux hommes.
Excuse-moi, je suis un peu violent. Va, tu veux t'en aller? T'es pressé maintenant?
Allez, t'approche pas, tape pas, hein. Tape pas parce que bah, avec moi je te préviens, hein. Fais attention, fais gaffe.
Fais gaffe à quoi? Hein? Fais gaffe à quoi? Tout à l'heure tu voulais tout becquer, puis maintenant tu te dégonfles. T'es tout pâle, tu perds tes arêtes. Ah, t'es pas beau à voir, tu sais. Puis maintenant je vais te donner un conseil si tu me rends compte, hein. Et bah change de trottoir, et puis vite. Parce que sans ça, tiens, comme ça.
Vous avez reconnu Bertrand Tavernier?
Oui.
Dites-le alors.
Pas la peine, tout le monde le connaît.
Fight Club, on a bien reconnu.
Oui, c'est un classique.
Qu'est-ce qu'elle raconte,
cette plaque? Dites-le quand même, il y a tout le monde le sait.
Mais Quai des Brumes, alors est-ce qu'on a eu un débat? Oui. Est-ce qu'on dit le Quai des Brumes ou Quai des Brumes?
Moi, je dis Quai des Brumes. Il l'a foutu une vraie baffe, hein.
Ah oui,
oui, parce que c'est Michel Morgan qui l'a dit. Parce que la veille, Brasseur, qui s'était un peu bourré la gueule, avait été extrêmement grossier avec Morgan et ça avait complètement déplu à Gabin. Et quand il a tourné la scène, il lui a foutu mais vraiment une vraie torgnole.
Ah bon,
hein, oui. Et c'est assez marrant parce qu'à un moment. Je me souviens d'un moment où quand Bedos commençait à s'engager dans la politique, il s'en était pris à Alain Juppé, il avait une formule assez drôle, il dit, c'est marrant, on le voit pas bébé Alain Juppé, et il a une tête tout de suite là à se faire prendre des baffes par Gabin dans le Quai des Brumes. Ce qui était assez drôle. Quand même.
Et voilà. Alors, une visite de terrain, c'est toujours une mise en scène, c'est préparé, oui. C'est orchestré, et puis arrive cette gifle, oui. Avec votre regard de cinéaste et de cinéphile, ça dit quoi cette gifle qui vient?
Je sais bien. Pas parce que maintenant, j'ai même pas envie de commenter ça parce que on va finir par passer plus de temps à parler de ce non-événement que de choses qui sont très très
oui,
importantes.
Oui, mais c'est la violence est inhérente à la
mais
politique
y a aussi.
L'invective.
Oui, c'est l'invective. Bien sûr, parce on a créé quelque chose comme ça là récemment, et aussi on a l'impression qu'il y a des gens qui vont se livrer à ce genre d'acte parce qu'ils savent qu'ils vont passer à la télé du coup. Ça va leur donner une forme de notoriété, ce qui était donc je sais pas, c'est pas en tous les cas, c'est pas comme ça.
C'est un épisode de télé-réalité.
Oui, voilà. C'est pas comme ça qu'on va un peu progresser. Il y a des choses qui sont encore plus indécentes que cette gifle. Je pense que la sortie de Laurence Ferrari contre Arnaud de Montebourg, qui avait osé critiquer Bolloré,
oui, pendant
ça
le débat.
C'était vraiment indécent. Ça, oui. C'est vraiment le comble de l'indécence, là, d'un seul coup, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a, les reproches, là.
En lui demandant s'il agissait contre les patrons qui tenaient des médias, etc., lui a rappelé qu'elle travaillait pour un média qui, pour Bolloré, quoi.
Oui.
Ne critiquez pas, c'est peut-être mon futur employeur.
Oui, mais justement, je pensais à vous et je me disais, je suis dans la merde. Vraiment. Là, j'essayais de vous savonner la pente.
J'ai bien vu.
Bertrand Tavernier, à côté de vous, il y a Juliette Arnaud qui nous parle de livres.
Oui, alors en 2009, Monsieur Tavernier, vous avez un film qui sort sur les écrans qui s'appelle Dans la brume électrique. C'est l'adaptation d'un polar américain. Un seul film, et j'en prends pour 20 bouquins, c'est-à-dire toutes les aventures du shérif Dave Robichaud. New Iberia, Louisiane, États-Unis d'Amérique, ancien du Vietnam et ancien de l'alcoolisme. Oui, il y a un lien. James Lee Burke raconte inlassablement sur ses 20 bouquins le vieux Sud, magnifique et délétère, le pire et le meilleur de l'Amérique, les vaincus de la guerre de sécession, les fantômes quasiment à vue dans les bayous et les rednecks. Moi, quand je pense redneck, j'entends ça. Monsieur.
sourire Bertrand Tavernier. Alors, quoi
mais c'est Délivrance.
Bravo.
Mais on est loin de la Louisiane.
Hein. Ah, on n'est pas très très loin, c'est la Géorgie.
Oui, c'est à, en tout cas, c'est à plusieurs milliers de kilomètres.
Oui, mais c'est les États du Sud. Enfin, en tout cas, c'est le Sud profond.
Oui, oui, c'est le Sud profond, mais le Sud profond, il est très profond.
Oui, dans les mentalités, il est pas très 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 éloigné ni de l'Alabama ni de la Louisiane.
Ouais, c'est le dessous des cartes. L'émission s'est transformée en dessous des cartes.
Oui.
Hommage à Jean-Christophe Victor qui vient de nous quitter d'ailleurs.
Donc, Délivrance, John Boorman, 1972, c'est le début du film, enfin en tout cas c'est le premier quart du film, c'est l'échange musical et muet de mots entre le citadin, joueur de banjo, et le petit cutéreux, joueur de banjo aussi, moment de joie avant le drame et la peur. Je soupçonne d'ailleurs Boorman d'avoir filmé cette séquence pour endormir notre vigilance. Hein, quand on la regarde, on sourit, on est assez heureux, les gens de la ville connectent avec les cutéreux, elle va bien se passer cette descente de rivière, il n'y a pas de raison, on se détend, on relâche les abdos et pan ! Coup de fusil dans la nuque. Et on signe normalement pour un traumatisme sur 20 ans minimum par remboursement. Par la sécurité sociale. Mon Dieu, qu'ils sont coquins les cinéastes. Parenthèse fermée. C'est pas ma faute à moi si depuis je les aime les rednecks. C'est à cause de vous, messieurs Tavernier, James Lieberg, Boorman. Je peux pas m'en empêcher. Et oh merveille, qu'est-ce que je tiens dans ma main droite? Des rednecks de chez nous, de notre pays. La France, mais la France la profonde, ça se passe dans les années 2000, chez les ploucs, chez les cutéreux, tout ça, dans un petit roman dense, émotif et cru. Par la grâce d'un jeune écrivain, il n'a pas 25 ans ce garçon, il s'appelle Simon Johannin. Et c'est un premier roman, ça s'appelle L'été des charognes. Alors on commence comme dans un genre de Le Petit Nicolas, hein, ça ne peut pas donner de meilleur compliment. Sauf que là, foin des années 50 et 60, foin de la petite bourgeoisie sage et rangée. Pour autant, le narrateur, de sa taille de tétard, a quelque chose de l'humour du Petit Nicolas, sa manière de regarder par en dessous les adultes. Ici, le père par exemple qui mange un agneau à la broche. Attention Guillaume, tu vas morfler. Tant qu'il en reste, le père en reprend. Il les os aussi, il les mâche jusqu'à ce qu'il puisse les avaler. Et les plus gros, il les casse avec un marteau pour gratter ce qu'il y a à l'intérieur. À côté, les chiens, ils font bien la gueule en levant la tête vers lui parce qu'ils savent qu'il leur laissera rien à bouffer. Bon, là, Guillaume est horrifié. Mais pour nous autres, pour nous qui avons grandi à la campagne, même momentanément, on retrouve un truc hyper familier. Ce truc avec les bêtes, toutes les bêtes, celles qu'on élève, celles qu'on tue, le silence des agneaux, celles qui meurent, les vivantes et les charognes, la dureté de la nature. Pas exactement la même vision hygiéniste que ceux des villes. L'eau, ça rouille à la campagne. L'alcool comme rite initiatique, la baston à l'avenant. Et puis, il y a des pépites de poésie pure, juste après le festin du père, par exemple, mais vraiment une page plus loin. Je cite de Rechef. « Le soleil s'est lézardé par fragments de petites lumières oranges en touchant les premières cimes. Sous les feuilles des hêtres, ça nous faisait presque des peaux de léopard pendant qu'on regardait le feu droit dans les flammes. » Bref, l'été des charognes, c'est beau comme le chaos. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci les références de l'ouvrage.
Alors c'est une très jolie petite maison d'édition qui s'appelle Alia. Il s'appelle Simon Johannin et ça s'appelle L'été des charognes.
Et justement, Bertrand Tavernier a amené sous le bras, pour patienter avant l'antenne, un livre publié dans la même maison d'édition
d'un auteur que j'adore, qui est Patrick Ourennik, qui avait écrit un bouquin qui est presque un chef-d'œuvre, qui s'appelait Européana. Et là, c'est un livre qui s'appelle La fin du monde n'aurait pas eu lieu. Et Ourennik est non seulement un tchèque qui écrit en français, qui a traduit Rabelais en tchèque. Je trouve que c'est un exercice formidable. Rabelais, Raymond Queneau et Beckett.
Conseil lecture de Bertrand Tavernier. Et les enfants maintenant ont leur salle de cinéma, une salle où les films ne durent pas plus de 40 minutes, un lieu où ils ont le droit de s'exprimer, de bouger aussi pendant le film. C'est encore assez confidentiel, mais voilà qu'ils développent beaucoup leur fibre artistique. Et après, évidemment, ils se posent des tas de questions sur l'art, hein, c'est chouette.
C'est quoi abstrait, monsieur ?
Bah, abstrait, c'est le contraire de concret. Tu vois, je vais te donner un exemple. Par exemple, si je te donne une gifle, c'est concret. Pan, t'as une gifle. Ouais. Si je te donne une image, c'est abstrait. On peut pas les toucher, c'est une idée. Tu comprends ? Qu'est-ce qu'il y a, là ?
Bah, monsieur, je vais donner une gifle, comme vous m'avez dit. Vous nous avez dit que c'était concret.
Tu as donné une gifle ?
Oui.
Mais t'es fou, toi ! Ça fait mal ? Pleure pas, mon grand, va. Hein ? T'es un grand. Fais attention, toi, hein, moi aussi je peux être concret avec toi.
Et ça commence comme ça et ça finit par agresser un ex-premier ministre dans les Côtes d'Armor, évidemment. C'est un extrait du maître d'école. Alors, ça se passe à la Villette, tiens, ces salles adaptées aux enfants. Et dans quelle autre salle? Adapter une salle aux 3, 5, c'est à partir de 4 ans, je pense, entre 4 et 7 ans, avec du son un petit peu moins fort, une lumière tamisée, on peut bouger, on peut parler un petit peu. Ça peut vraiment développer une fibre cinématographique, Bertrand Tavernier?
Je n'ai aucun avis là-dessus. Mais aucun avis, moi je...
Ça veut dire que vous doutez. Parce que vous les avez vus, les chefs-d'œuvre.
Je sais pas, moi, mes enfants, ils ont découvert des films dans des salles obscures où ils ne parlaient pas pendant le film.
C'est-à-dire que...
Moi-même, oui. Moi-même aussi, j'ai découvert, j'ai pas eu besoin de
d'une mise en condition.
D'une mise en condition. Bon, mais c'est vrai que le monde a changé, que les enfants de maintenant sont infestés ou presque d'images partout, et que on doit avoir un rapport différent. Mais c'est peut-être bien, je sais pas, j'ai aucune idée là-dessus.
Alors,
mais j'aime pas beaucoup qu'on apprenne aux gens qu'on pousse les gens à parler pendant que quelque chose se passe, alors que normalement, ce qui manque le plus dans la jeunesse arrivée, c'est la concentration. Face à un monde où les gens, si on a des adversaires, ils sont hyper concentrés. Ce que j'arrête pas d'expliquer dans les universités américaines, le pouvoir de concentration des Américains, à cause de la pub à la télé, ça dépasse pas 10 minutes. Le temps entre deux pubs. Comment est-ce qu'ils peuvent gagner contre des gens qui sont capables de rester sur... avec une foi religieuse qui leur permet de rester sur un rocher pendant 4 heures à fixer le même point? Ils sont perdus. Ils ont déjà perdu la guerre avec ce genre de mentalité. Donc je ne sais pas si on doit apprendre aux gens encore à se déconcentrer un peu plus.
Alors c'est vrai, il y a un argument commercial évidemment, mais il y a aussi l'idée de proposer d'autres images que la télévision.
Oui,
comme vous
alors
disiez,
ça
les
c'est
amis.
Vrai, c'est vrai, c'est vrai que c'est important, mais c'est quelque chose qui aussi devrait être... L'image devrait être prise en compte par l'école, par les enseignants. Et pas pour en faire une matière scolaire, mais pour apprendre aux gens à déchiffrer, à utiliser les images, à douter des images aussi. Ça, l'éducation nationale a mis énormément de temps à prendre en compte l'image. Énormément de temps.
Ça fonctionne aussi par le choc, c'est-à-dire un choc cinématographique et on devient cinéphile presque.
Ben,
quand
on découvrait le cinéma en salle, c'était plus facile, je pense, d'avoir des chocs cinématographiques. Les films faisaient sans doute une plus grosse impression quand on les voyait en salle que quand on les découvre sur un écran de télévision, souvent avec des gens qui parlent. Souvent sans être complètement concentré. Ça, c'est Noiret qui me répétait. Il me disait, c'est marrant, les films que je vois à la télévision, très souvent, je m'en souviens plus 3-4 jours après. Alors que dans une salle, je m'en souviens et que je me souviens de tous les films que j'ai vus quand j'étais jeune, mais même ceux que je vois maintenant. Il y a le fait de voir des films avec d'autres spectateurs aussi, ça joue.
En communion. Et en parlant de cinéma...
Un petit court-métrage.
Oui, on a un court-métrage pour vous.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité.
Oui.
S'il accepte, je vous donne le rôle de Jean-Luc Mélenchon.
Oh, ça, c'est au poil, c'est un cadeau.
Alors, vos deux dire comme, c'est Charline et Guillaume. Vous savez qu'il va faire un meeting en hologramme. Donc, oui. Il sera, lui, à Lyon, mais son hologramme sera à Paris. Et il y a eu un petit souci. Les deux de la com vont vous expliquer ça.
Ok, monsieur Mélenchon, on a eu un problème avec votre hologramme.
C'est impossible, je suis un vrai geek.
Oui, mais là, on va passer pour des nazes, je suis désolé.
Oui, en fait, alors on a repris la technique d'hologramme des chanteurs morts, là, vous savez, le concert avec Dalida, tout ça, mais il y a eu des petites interférences, quoi. Ouais. Voilà.
Me dites pas que mon plan pour l'écologie a été défendu par Mike Brandt.
Bah, si.
Donc, alors, vous à Lyon, vous avez bien parlé du quinoa, et voilà ce que ça donnait à Paris, quoi.
Quinoa, quinoa, quinoa.
Et voilà, c'est ça.
Tout le monde va manger du quinoa.
Voilà, c'est ça.
Et en plus, ils chantent faux.
Ouais, désolé, mais bon, ça encore, ça irait, mais...
Alors, quand vous avez parlé des 32 heures, bah, votre hologramme à Paris, regardez les images.
Le lundi au soleil, il va falloir vous y habituer, prolonger votre sommeil.
Voilà, ouais,
vous travaillez plus que 4 jours.
On est désolé. Hein.
Le cinquième, manger du boulgour.
Voilà.
Bon, c'est une autre façon de le dire, mais c'est pas complètement faux.
Alors, il n'y a pas mieux que Claude François pour électriser les foules, hein, de toute façon.
En tout cas, La bonne nouvelle, c'est que Dalida n'a rien fait.
Alors, comment vous dire ouais. Parce qu'il y a un moment, vous avez mentionné la retraite à 60 ans.
Oui, hein. Et là, votre hologramme a bugué.
Il venait d'avoir 60 ans, se consacrait à ses enfants et à sa bonne. Il courait plus vite, heureusement.
Mais c'est carrément nul, non?
C'est vrai qu'elle aurait été plus crédible sur le suicide assisté. Mais ouais.
C'est catastrophique. Vous n'auriez pas pu trouver un chanteur moderne?
Ça aurait été bien d'avoir Booba pour défendre le SMIC à 1300 euros.
Et puis il est pas mort lui.
Ouais.
Et pour mon projet de séparation des banques, vous avez fait chanter Bernard Tapie.
Bernard Tapie est pas mort, hein. Si.
Comme chanteur, si.
Ah, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais bon, si vous étiez prêt à entendre Tapie, ça vous plaira presque, Sacha Distel.
Ah bah non.
Si. Ah bah si, ouais. Bah c'était sur les OGM.
Ouais. Des pommes, des poires, mais sans OGM bidou.
Oh là là.
Désolé.
Et Jean Ferrat, il était pas libre, Jean Ferrat.
Pourtant que la gauche était belle.
Ah ben voilà, ça c'est crédible.
Bertrand Tavernier en Jean-Luc Mélenchon.
Oui, ah ben oui.
C'est un peu le candidat
ça,
des ouvriers. Ça
c'est du texte. Hein.
La meilleure vanne de la journée.
Merci à Alex Bizorek et Frédéric Fromet qui nous a aidé à écrire ce magnifique.
Ah ben oui, ils ont eu un prix de la SACD pour ça.
Tavernier, je rappelle que vous serez donc au festival Premier Plan d'Angers qui présente les premiers films européens du 20 au 29 janvier. Le jury sera présidé par Lambert Wilson et vous vous présenterez votre documentaire Voyage à travers le cinéma français le 23 janvier
à
Angers.
On a envie de voir tous les films dont il parle à la sortie du documentaire.
Et vous présenterez d'ailleurs là-bas aussi Antoine et Antoinette de Jacques Becker et Le Grand Silence, western spaghetti franco-italien réalisé par Sergio Corbucci. Voilà, oui. Je pense qu'on a été complet, Bertrand.
Merci
d'être resté avec nous. On va se retrouver demain. Évidemment, le mot de la fin, on va le laisser à l'enfant qui sommeille en nous devant Manuel Valls.
Qu'est-ce qu'il y a là?
Je lui ai donné une gifle, comme vous m'avez dit. Vous nous avez dit que c'était concret.
Tu as donné une gifle?
Oui.
Mais t'es fou, toi. Ça fait mal. Fais attention, toi. Hein. Moi aussi, je peux être concret avec toi.